Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend.
18h-19h. Pierre de Villeneau.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à tous dans Europe 1 Soir version Weekend. 60 minutes d'infos et de débats. Il est 18h. Ou presque. Sur Europe 1. Au sommaire, d'abord interdite puis permise, la marche contre le racisme et l'islamophobie ce dimanche à Paris était jugée sous haute tension, finalement pas de heurts et un défilé plutôt dans le calme. 3000 personnes sur place, nous sommes là dès le début de ce journal. Nous irons à Nice puisque demain s'ouvre en appel le procès de l'attentat terroriste le plus meurtrier de ces dernières années en France, celui du 14 juillet 2016 à Nice. Ce camion fou tuant 86 personnes dont de nombreux enfants. Vous entendrez l'avocat des partie civile. Nous irons en Israël où, à la veille de Pessah, et malgré l'absence de bombardements massifs, la guerre continue. Tzahal analyse, dissèque minutieusement les images de l'attaque iranienne et réplique le détail avec notre envoyé spécial dans quelques instants. Dans ce journal également, le sport et l'arrivée en cyclisme du Liège-Bastogne-Liège, Pogacar superstar, Max Verstappen sans surprise, vainqueur du Grand Prix de Chine, et le PSG qui ce soir reçoit l'OL, vieil adversaire des pelouses que le Paris Saint-Germain ne va pas tarder à revoir en finale de la Coupe de France. Ça sera fin mai. La météo, la tendance. Bonsoir Anthony Kaczmarek.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Attention au risque de gel demain autour de 0 degré dans beaucoup de régions et à peine 7 à 15 degrés dans l'après-midi. Et encore des averses sur la moitié est, au nord de la Loire. Et ce sera ensoleillé en revanche entre le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon.
18h15, l'interview politique. Bruno Bonnel est le secrétaire général pour l'investissement et en charge de France 2030 avec la descente aux enfers d'Atos, la vente probable de Biogarant, la France qui risque d'écoper d'une tôle par les agences de notation la semaine prochaine. Quelle perspective pour relancer l'investissement dans notre pays? 18h30, le club politique d'Europe 1 Soir, le constitutionnaliste Benjamin Morel et l'expert à la Fondation Jean Jaurès Dorian Dreuil.
Europe 1.
C'est comme je vous le disais en titre, une manifestation qui avait été soigneusement examinée par les services de renseignement, les services de l'intérieur. D'abord interdite par risque de débordement, puis finalement autorisée par la justice, le grand rassemblement contre le racisme et l'islamophobie avec dans le cortège les ténors de LFI en commençant par Jean-Luc Mélenchon. Atterrissage, place de la République, où vous vous trouvez Guillaume Dominguez et finalement plutôt dans le calme.
Oui, ici la fin du cortège a rejoint la place de la République il y a maintenant une petite demi-heure et une bonne partie des manifestants se sont déjà dispersés. La mobilisation s'est déroulée dans le calme tout au long du parcours malgré plusieurs slogans scandés par la foule à l'encontre des forces de l'ordre et d'Israël.
Urgence ! Urgence ! La police assassine !
La foule scandait, je cite, « La police assassine et Israël assassin », un cortège marqué par la convergence de plusieurs luttes et particulièrement la très forte présence des mouvements pro-palestiniens, marqué également par le soutien de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Louis Boyard ont fait une très courte apparition dans le défilé. Place de la République à présent, une grande partie des manifestants sont partis. L'attention des forces de l'ordre va se porter à présent sur la tenue du concert gratuit du rappeur Medine, un concert prévu ce soir pour clôturer cette journée de mobilisation.
Et on suit ça attentivement avec vous, Guillaume Dominguez, en direct de la place de la République à Paris. Merci à vous. C'est demain que s'ouvre le procès en appel de l'attentat terroriste islamiste de Nice. Le dernier attentat le plus meurtrier en France, 86 personnes, dont de nombreux enfants, ont perdu la vie brutalement sous les roues de ce camion bélier lancé le soir des festivités du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Deux accusés condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, comparaissent devant la cour d'assises spéciale. Ces deux hommes de proches du terroriste qui conduisait le camion abattu par la police sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ne sont pas considérés comme des complices, mais la justice estime qu'ils ont joué un rôle dans la dérive islamiste et meurtrière de l'auteur de l'attentat. Écoutez, maître Philippe Soucy, il défend plusieurs dizaines de parties civiles.
Tout a été dans ce dossier mensonges et dissimulations sur des détails comme sur des éléments importants du début jusqu'à la fin. J'ai toujours l'espoir qu'un procès par l'oralité des débats puisse apporter de nouveaux éléments. Peut-être que celui-là en apportera d'autres, d'autant que nous n'aurons que deux accusés dans le box et non pas le nombre d'accusés importants qui étaient dans le premier box et qui avaient amené la durée des débats à être extrêmement longue. Là, nous aurons les deux protagonistes essentiels avec la possibilité de se polariser sur leurs responsabilités. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à cela. Pour mes clients, c'est une chose difficile de revivre un deuxième procès. Un deuxième procès est un procès nouveau. Ce que je peux vous dire parmi les dizaines de personnes que je représente, c'est que ce nouveau procès est une nouvelle épreuve.
Philippe Soucy, avocat qui défend plusieurs dizaines de parties civiles interrogées par Frédéric Michel. Les Juifs du monde entier fêtent demain Pessah, la Pâque juive. En Israël, la tension ne redescend pas, même s'il faut continuer de vivre. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des Israéliens. Et si Tzahal ne mène pas pour l'heure un conflit à grande échelle, c'est une guerre par petite frappe, par petite touche qui est entreprise. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. Wilfried, l'armée israélienne qui désormais a plus d'informations sur l'attaque de l'Iran.
Oui, on apprend qu'il s'agissait de frappes doubles, des tirs de drones, mais aussi de missiles S-300. Des missiles assurent officieusement des responsables iraniens et israéliens au New York Times qui ont visé et endommagé les systèmes de défense antiaérien de Natanz, ville hautement stratégique puisqu'elle abrite parmi les plus importants centres de recherche du programme nucléaire iranien. Des images satellites diffusées par des médias iraniens d'opposition montrent également les dégâts causés par les explosions. Une façon pour Israël de montrer qu'il est capable de contourner et de neutraliser les systèmes de défense de Téhéran. Il s'agissait aussi pour les Israéliens de restaurer leurs forces de dissuasion. Plusieurs analystes militaires cités dans les médias ici à Tel Aviv affirment que ces frappes et celles en Irak hier ont permis d'ouvrir un couloir de tir jusqu'en Iran en cas de riposte de Téhéran. Les tensions semblent désormais s'apaiser malgré déclarations belliqueuses et mises en garde d'une part et d'autre.
Ouais, et sur le terrain, pourtant, la tension est montée d'un cran.
Oui, la bande de Gaza, particulièrement le sud, a été lourdement bombardée par l'armée israélienne aujourd'hui. Et puis, on peut aussi parler de ces différentes tentatives d'attaque contre des Israéliens en Cisjordanie. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre un réserviste de l'armée tenter d'enlever un drapeau palestinien avant de sauter sur une mine. Le drapeau était en fait piégé.
Merci Wilfried de Villers en direct de Jérusalem. Pour Europe 1, vous restez avec nous à 18h06, une pause. Et dans un instant sur Europe 1, une grande page sport avec les meilleurs devant Pogacar, Verstappen. Pour le PSG, il faudra voir ce soir.
Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et le retour du journal à 18h08 sur Europe 1, le sport et d'abord le cyclisme et la doyenne des classiques cet après-midi, Liège-Bastogne-Liège, une course mythique qui existe depuis 1892 et c'est un double vainqueur du Tour de France qui s'est imposé dans les Ardennes belges, Martin Lange.
Et oui, Tadej Pogacar, le Slovène déjà vainqueur à Liège en 2021, on attendait beaucoup de son mano à mano face au champion du monde Mathieu Van Der Poel. Eh bien, il n'a jamais eu lieu, piégé par une chute en début de journée. Van Der Poel n'a jamais pesé sur la course, à l'inverse de Pogacar, protégé par ses coéquipiers et qui s'est envolé dans la bien nommée Côte de la Redoute à 30 km de l'arrivée. Le Slovène a même pu savourer son triomphe dans les derniers hectomètres sur les quais de la Meuse. Derrière lui, c'est un Français qui prend une très belle deuxième place, Romain Bardet, un habitué des places d'honneur, 50 fois deuxième dans sa carrière, vous vous rendez compte. L'Auvergnat signe son meilleur résultat ici à 33 ans et peut-être pour sa dernière saison professionnelle. Une place d'honneur qu'il n'osait même pas imaginer ce matin.
Super content, je m'étais presque fait un peu une raison sur Liège et comme quoi, il faut toujours y croire et je savais que le temps allait être difficile, que ça allait être une course usante et tout. J'ai pris vraiment sans pression avec bien sûr aussi de très bonnes jambes.
À Romain Bardet, ému aux larmes après avoir franchi la ligne, Mathieu Van Der Poel lui restera le grand bonhomme de cette campagne de classique. Il a d'ailleurs remporté le sprint des battus pour un podium de rêve. Pogacar, Bardet, Van Der Poel, tout ce beau monde va maintenant prendre un peu de repos avant de se retrouver début mai sur le Tour d'Italie où Pogacar fera une nouvelle fois figure d'épouvantail. Pardon Pierre.
Merci, sauf vous. Merci Martin Lange. La Formule 1 à présent et le week-end parfait pour Max Verstappen à Shanghai. Le Néerlandais vainqueur de la course sprint hier a emporté ce matin le Grand Prix de Chine. Le pilote Red Bull n'a absolument pas été perturbé par les accrochages, Christopher Pilak.
Oui Pierre, nouvelle promenade pour Max Verstappen malgré une course marquée par deux voitures de sécurité. Le triple champion du monde continue de dominer tous les Grands Prix qu'il termine. 58e victoire pour le Néerlandais et la première sur ce tracé. Tout l'intérêt de ce Grand Prix était donc de savoir l'identité des deux autres pilotes présents sur le podium. C'est Lando Norris, parti quatrième avec sa McLaren qui a joué sa carte à fond et qui prend la deuxième place devant Sergio Perez pour la première fois de la saison. Donc aucune Ferrari Ferrari sur le podium. Charles Leclerc et Carlos Sainz terminent respectivement 4 et 5e. Derrière, on retrouve George Russell, Fernando Alonso et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, parti 18e, accroche la 9e place. Nico Hülkenberg complète le top 10. Aux portes des points, Alpine progresse. Après un début d'année passé en fond de grille, l'écurie française retrouve quelques couleurs. Esteban Ocon et Pierre Gasly terminent 11 et 13e. Esteban Ocon au micro de Canal+, frustré de terminer si proche du top 10.
C'est dur d'échouer à 2 secondes du top 10 parce que ça aurait été vraiment une belle fin d'avoir ce point. On n'a pas réussi à l'avoir malheureusement, mais en tout cas c'est notre meilleur résultat de l'année et il faut qu'on continue à progresser dans ce sens.
Et parmi les derniers arrivés du jour, le pilote chinois Guan Yu Zhou, 14e, a savouré les clameurs de son public. Le natif de Shanghai est le premier chinois à concourir en Formule 1 et donc à piloter sur son circuit local.
Merci mon cher Christopher. Philoc en tennis, Casper Ruud remporte son premier tournoi ATP 500 à Barcelone. Il prend sa revanche sur Stefanos Tsitsipas. Finale de Monte-Carlo qu'il avait perdu contre le Grec. Le foot, 30e journée de Ligue 1 avec tout à l'heure Lille qui s'est imposée sur Strasbourg 1-0. Montpellier est allé battre Reims 2-1, de même que Metz qui a battu Le Havre 1-0. En ce moment, Brest-Monaco. Tout à l'heure, à 19h, Toulouse contre Marseille. Et puis à 21h, le PSG qui accueille Lyon. Les Parisiens qui viennent de battre Barcelone se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. D'ailleurs, les Lyonnais, ils vont les retrouver dans quelques semaines, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un avant-goût de la finale de la Coupe de France prévue le 25 mai prochain à Lille. Deux formations en forme. Lyon poursuit sa fantastique remontée au classement et se rapproche du top 5. Les Lyonnais ont battu Brest dimanche dernier lors d'un match fou. Ils pourront compter sur leur prolifique attaquant Alexandre Lacazette, légèrement blessé et qui a repris l'entraînement. Mais la tâche s'annonce très complexe pour les Rodaniens au Parc des Princes. Les stars du PSG vont vouloir surfer sur leur qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, analyse l'entraîneur lyonnais Pierre Sage.
Pour moi, ça va avoir un effet positif pour eux. Et ils ont prouvé cette semaine qu'en plus, c'est un adversaire de très haut niveau sur la scène européenne. Donc le challenge va être élevé, mais notre ambition l'est aussi.
Paris, qui domine outrageusement la Ligue 1, espère remporter rapidement le championnat pour se concentrer sur la Ligue des Champions et la Coupe de France. En attendant, le PSG rendra ce soir hommage à son valeureux capitaine. Le défenseur Marquinhos est devenu le joueur le plus capé du club de la capitale et recevra un maillot spécial pour l'occasion.
Merci Cyril de la Morinerie. Le rugby avec cet exploit des Françaises en tournoi destination dans la 4e journée. La France qui bat le Pays de Galles 40-0. Comme ça, c'est fait. La météo, encore un petit peu plus froid demain, Anthony.
Oui, avec des températures comprises au réveil, souvent entre moins 1 et 3 degrés en ville, ce qui veut dire qu'en campagne, ça gèlera quasiment partout en dehors des littoraux, jusqu'à moins 2 ou peut-être moins 3 degrés autour des régions centrales, ce qui va devenir problématique pour la végétation et pour les cultures. Et puis dans l'après-midi, à peine 7 à 15 degrés, allez, 17 péniblement pour Toulon et Ajaccio, mais seulement 14 à Nice, à Marseille, à Toulouse, 12 degrés à Paris et Lille, 11 à Lyon et Strasbourg, 10 à Grenoble, et Clermont-Ferrand et 8 pour Saint-Étienne, avec toujours de l'instabilité dans l'Est, c'est-à-dire des averses fréquentes entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, en redescendant jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse. Des averses qui seront neigeuses à partir de 400 mètres sur les reliefs le matin, 700 mètres l'après-midi et 1200 mètres pour la montagne corse. Mais ailleurs, la matinée sera plutôt belle, ensoleillée, avec toutefois déjà un risque d'averses près des côtes de la Manche. Et ces averses vont à nouveau gagner la moitié nord, en tout cas le nord de la Loire l'après-midi, avec de plus en plus de nuages. Mais ce sera bien ensoleillé sur un bon quart sud-ouest depuis les Pyrénées jusqu'à la Loire et quasiment tout bleu pour la côte aquitaine. Et puis attention, toujours du vent fort près de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane jusqu'à 80 km/h.
Oui, ce froid, ça va durer combien de temps?
Ça va durer encore 4 jours jusqu'à jeudi inclus, avec toujours des averses assez aléatoires sur presque tout le pays, sauf autour du Languedoc-Roussillon. Et puis à partir de vendredi, on va changer de flux. C'est le vent de sud-ouest qui va souffler, qui va donc nous rapporter de la douceur, sans doute, pour le week-end. Mais avec une dépression qui va arriver par la côte atlantique, et comme son nom l'indique, ça n'augure rien de bon. La pluie pourrait faire son retour de manière conséquente.
Merci Anthony. Kaczmarek dans un instant sur Europe 1. Mais quelle mouche a donc piqué Emmanuel Macron? Dans un tweet d'une allégresse pas comme les autres, il annonce la mobilisation de tous pour réindustrialiser le pays. Ah oui, dans cette situation, mais avec quel argent? Bruno Bonnel, le monsieur en charge de tout ça, nous explique tout dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend.